Émile, un livre et des révélations. 2 ans que le crâne du petit Émile a été retrouvé sur un sentier par une randonneuse. Presque 3 ans d'enquête et une question, aujourd'hui sans réponse. Qui a tué le petit garçon ? Disparu le 8 juillet 2023 alors qu'il était sous la surveillance de ses grands-parents dans la maison familiale du Auvernais. Je suis Pauline Revenat, vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires Suivantes, le podcast inédit. Avec nous Valentin Doyen qui publie un livre chez Fayard, Émile, les zones grises de l'enquête. Bonjour Valentin.
Bonjour Pauline.
Merci d'être avec nous. Vous avez été le chef du bureau de BFM d'ici et vous avez couvert l'affaire Émile. Vous couvrez l'affaire Émile pour BFM TV depuis le début. Et dans ce livre, vous revenez sur les zones grises de l'enquête. Vous allez nous révéler des informations inédites parce que vous avez pu rencontrer la famille Vedovini, les grands-parents d'Émile, toujours au cœur des interrogations. Alors, ma première question, elle est simple. Vous avez pu les rencontrer à 2 reprises. Mmh. Dans quel esprit est-ce que vous allez les voir et quelles sont les circonstances de ces rencontres ?
J'ai peur, je suis apeuré. J'ai écrit 2 lettres pour aller les rencontrer. Une lettre qui leur est adressée, une lettre qui est adressée à Colomban et Marie, les parents du petit Émile. Et je veux leur expliquer ma démarche. Quelle est cette démarche ? Pourquoi je souhaite écrire un livre ? Pourquoi j'ai pu parfois les blesser en exerçant mon métier que j'aime tant ? Et bien j'arrive à les rencontrer, les grands-parents. Et c'est vrai que j'ai peur. Je suis un peu tétanisé parce que je me dis, voilà, 2 ans après le début de mon enquête, je vais pénétrer probablement l'intimité de gens qui ont été parfois écornés par mon travail. Je ne sais pas ce qu'ils vont penser de moi, je ne sais pas ce qu'ils vont me dire, comment ils m'attendent, dans quel état d'esprit ils sont. Et puis ce sont des personnes qui ont été placées en garde à vue et qui ont été soupçonnées et qui sont peut-être encore soupçonnées au moment où je les rencontre, soupçonnées d'avoir fait du mal à leur petit-fils et d'avoir caché leur corps. Donc j'ai peur.
Alors vous dites que la famille, elle est écornée peut-être par le travail que vous avez fait, mais elle est surtout brisée par ce poids de l'affaire non résolu. Vous racontez donc les 47 heures de garde à vue. Il faut rappeler à ceux qui nous écoutent que c'était 4 gardes à vue simultanées. Mmh. Le grand-père, la grand-mère, l'oncle et la tante qui sont placés dans 2 endroits différents. Mmh. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter des coulisses ? Qu'est-ce que vous découvrez sur ces 47 heures de garde à vue ? Comment ça s'est déroulé ?
Alors, pour garder évidemment un petit peu de suspense et de secret, je ne vais pas tout vous dire, Pauline, vous vous en doutez. Mais ce qui est certain, c'est que les enquêteurs souhaitaient les faire craquer. Les enquêteurs avaient une intime conviction. C'était un suspect numéro 1, Philippe Vedovini, qui, par son tempérament, avait pu faire du mal à son petit-fils. Et donc, les enquêteurs ont tout fait, utilisé toutes les méthodes possibles pour obtenir des aveux.
Et vous verrez dans ce livre quelles sont les méthodes utilisées.
Oui,
ça, c'est du teasing.
Bien sûr, ça, c'est un excellent teasing. Mais voilà, c'était pas juste une garde à vue comme ça, on ne fait jamais rien au hasard. C'était quelque chose, un acte d'enquête qui était préparé depuis plusieurs mois, m'ont avoué certains enquêteurs.
Mais c'est d'un énorme plusieurs coup de pression mois qui a été mis sur la famille pendant ces 48
heures. Mais oui, parce que ça commence, souvenez-vous, au communiqué de presse du procureur Blachon. C'est lui qui révèle à la presse que 4 personnes sont mises en garde à vue, que ces personnes sont dans l'entourage familial et que les nouveaux chefs d'accusation sont l'homicide volontaire et le recel de cadavres. Il n'est pas obligé de nous donner toutes ces informations, Jean-Luc Blachon. Quand il le fait, il sait ce que ça va engendrer dans les rédactions. Secoué. Il y a un électrochoc. Souvenez-vous, c'est un séisme judiciaire qu'on vit tous. Et donc, il y a une volonté de faire craquer les Vedovini et d'obtenir ces précieux aveux pour peut-être les mettre en examen, aveux qui n'arriveront jamais.
Donc, ils vont ressortir libres après 47 heures de garde à vue sans qu'aucune poursuite ne soit engagée contre eux. Et vous rappelez, et je pense que c'est utile et précieux de le rappeler, qu'il n'y a qu'une seule question qui vaille aux yeux, notamment des parents d'Émile que vous avez pu, à qui vous avez pu remettre une lettre, en tout cas la maman d'Émile. Mmh. Qui a tué ce petit garçon ? Et c'est ça qui obsède tous les acteurs du dossier. Et
évidemment,
c'est ça qui tend la famille. Qui ne veut pas qu'on oublie cette interrogation.
Mais c'est la priorité et on peut les comprendre. Nous, on fait notre métier de journaliste. On a sorti des infos, on s'est intéressé au passé des grands-parents, au passé des parents. On s'est intéressé à un jeune agriculteur, à des ouvriers bulgares. Bon, des pistes, il y en a eu beaucoup. Parce que notre métier, c'est aussi d'informer, c'est aussi d'intéresser les gens. Et je l'explique dans le livre. Parfois, moi, j'ai été trop loin et c'est un système qui va trop loin parce que des gens sont très consommateurs de cette information.
Jusqu'où on va ? C'est une des interrogations de votre livre.
Jusqu'où on va ? Mais eux, les Vedovini et les Soleils, donc les familles d'Émile, elles ne veulent savoir qu'une seule chose. Qui a fait du mal à cet enfant ? Quand ? pourquoi. Et aujourd'hui, plus de 2 ans et demi après, on ne sait toujours pas le principal.
La piste familiale, elle reste sur la table. On l'avait révélé en janvier dernier, il y avait une perquisition des vélos dans la maison du Auvernais. On l'apprend en janvier, mais les perquisitions avaient lieu en décembre 2025. On apprend aujourd'hui 2 choses, que les vélos ont été rendus et qu'il y a un autre lieu qui a été perquisitionné en même temps.
Oui, ben c'était en réalité, les vélos étaient à 2 endroits différents. Ils étaient à la fois dans la résidence secondaire du Vernet, mais également dans la résidence principale de la Bouilladis. Il y a eu divers objets également qui ont été saisis et rendus depuis. Donc, on peut imaginer, et vous avez plus d'expérience que moi dans ce domaine judiciaire, que s'il y avait la moindre preuve, l'objet n'aurait pas été rendu, et ça serait ce qu'on appelle un scellé en cas de procès. Donc si tout est rendu, c'est que la justice aujourd'hui ne va pas se servir de ces vélos ou de ces objets pour faire manifester la vérité.
C'était donc une porte qu'il fallait refermer.
Une énième porte qu'il faille refermer, et plus de 2 ans et demi après les faits, la justice, les magistrats et les enquêteurs ferment toujours des portes.
Alors dans votre livre, Émile, on en apprend un peu plus aussi sur Maximin, qui est l'oncle d'Émile qu'on connaît pas bien en fait dans ce dossier. On a compris qu'il avait été mis en garde à vue avec sa sœur et ses 2 parents. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur Maximin et pourquoi ça le relie à l'enquête? Pourquoi est-ce que les enquêteurs tournent autour de lui?
Les enquêteurs tournent autour de lui parce que c'est l'oncle le plus âgé qui est présent au Auvernais lors de la disparition de l'enfant. Les 2 enfants les plus âgés sont Marthe et Maximin. Ce sont les 2 qui ont été placés en garde à vue avec leurs parents Anne et Philippe Bedovini. Maximin, comme son père, comme sa sœur, comme sa mère, a activement cherché l'enfant, justement avec un vélo. Lui, c'est un grand sportif, Maximin. Il connaît le territoire par cœur. Lorsqu'il a décidé de chercher son neveu, il a pris un vélo pour aller le plus loin possible, rapidement. Moi, il y a des gens qui le connaissent qui m'ont expliqué qu'il a cherché Émile 3 jours et 3 nuits. Donc, forcément, c'est quelqu'un qui intéresse les enquêteurs parce que les Vedovini sont les membres de la famille qui sont les derniers à avoir vu Émile vivant. Donc c'est tout à fait logique qu'ils intéressent encore les enquêteurs, même si, je le révèle, il y a des zones d'ombre dans la famille, mais il y a des zones d'ombre ailleurs aussi.
Alors zone d'ombre, zone grise, on va reprendre ce dossier avec vous. Votre livre, il a le mérite, Valentin, de remettre à plat tous ces presque 3 ans d'enquête. Et ce que vous nous révélez, et c'est sans doute le dernier chapitre qui est le plus fourni en information, mais peut-être faut-il commencer par le début pour savourer le dernier. Il y a des informations que vous nous révélez, notamment sur les biotopes, sur l'endroit où pistent les chiens et les ADN. Alors on va reprendre dans l'ordre. D'abord, moi ça m'intéresse beaucoup, l'endroit où pistent les chiens. On a beaucoup dit que ces chiens très expérimentés avaient marqué au lavoir. En lisant votre livre, on comprend que c'est pas si simple que ça, pas si clair que ça.
Non, c'est pas si clair que ça. Ce lavoir, c'est avant tout, à mon sens, une déduction journalistique. Logique. Logique. Parce que cet enfant est vu descendre le hameau par 2 témoins oculaires. Ça, c'est factuel. Et en bas du hameau, il y a une patte d'oie pour faire un demi-tour, un triangle de terre et un lavoir. Et des clapiers à lapin. Donc, tout à fait logique. Et les chiens y sont allés. Les chiens y sont allés, mais ils peuvent y aller, ils peuvent suivre une trace sans marquer.
Alors, est-ce qu'ils ont marqué ?
Selon une bonne source qui était, une source judiciaire présente au moment des faits, il n'y a aucun marquage clair à cet endroit-là.
En revanche, il y a un marquage à un autre endroit ?
Il se fait plus au nord. Il se fait plus au nord du hameau, à environ moins de 10 minutes à pied. C'est une cabane. Une cabane qui intéressé, bien sûr, les enquêteurs, parce que Émile s'y est rendu le matin.
Et qu'il aimait y aller.
Et qu'il aimait y aller, comme ses oncles et ses tantes. Ce sont des jeunes qui ont des formations de scouts aguerris, et donc qui font des cabanes, et qui s'amusaient. C'est le début des vacances, il faut s'y replonger, dans ce hameau en juillet 2023.
Il faisait très chaud.
Il faisait très chaud, et tout le monde, ses enfants, aimaient bien se retrouver au niveau de cette cabane. Donc il n'y a rien d'illogique. Est-ce que les Saint-Hubert, les chiens, puissent avoir marqué là-bas, puisque Émile s'y est rendu le matin avec ses oncles et ses tantes. Mais c'est à cet endroit, selon mes informations, que les chiens ont vraiment marqué, se sont véritablement excité au point de ressentir Émile.
Pourquoi est-ce qu'on peine autant dans cette enquête ? Parce que tout démarre. Alors effectivement, Émile échappe à la surveillance de ses grands-parents, mais ce qui va sceller en fait l'enquête, ce sont ces deux témoins dont vous venez de parler, qui sont à proximité de la maison, dans ce chemin descendant, et qui voient quoi exactement ?
Mais qui voient tout d'abord l'enfant descendre, pour les deux témoins. L'un des témoins voit également le grand-père descendre, Philippe Bedovini. L'horaire, 7 à 9 minutes, il descend. 7 à 9 minutes plus tard, ce même témoin revoit le grand-père remonter sans l'enfant. Et un peu surpris et affolé, dit « on a perdu Émile ». Et là, branle-bas de combat, tout le monde se met à chercher. Donc naturellement, les premières recherches, que ce soit celles des gendarmes, celles également des villageois, c'est de trouver un enfant qui s'égare seul. Avec du recul, c'est facile à dire aujourd'hui, mais avec du recul, naturellement, on peut imaginer que les recherches auraient été différentes si tout le monde avait su qu'Émile était probablement mort et caché.
Parce que vous révélez aussi, alors le nombre de biotopes, on va y revenir, là ça fait 2 ans, jour pour jour, enfin le week-end dernier, qu'on a retrouvé des ossements, le crâne d'Émile sur ce sentier de randonnée grâce, vous l'expliquez aussi dans le livre, à une randonneuse. Qu'est-ce que vous découvrez sur l'état de ces ossements et sur l'ADN qui a été retrouvé soit sur le crâne, soit sur une partie des vêtements qui avaient été disposés, rappelons-le, à quelques mètres de ces ossements?
Il y a des scientifiques, évidemment, qui livrent diverses hypothèses. Et c'est pour ça que, à la sortie du livre et à la sortie de mon enquête, j'explique que le doute est permis. Parce qu'il faut toujours douter. On ne peut pas dire aujourd'hui ce qui est arrivé au petit Émile. Moi, je ne peux pas le dire, et je pense que si le procureur ne le dit pas, c'est qu'il ne peut pas le dire non plus. Parce qu'il y a plusieurs hypothèses qui sont sur la table. Des hypothèses plus ou moins marquantes, plus ou moins importantes, ce qui explique pourquoi les enquêteurs favorisent des actes d'enquête pour fermer une à une les portes. Il s'avère que il y a un gros travail qui a été fait sur les ossements et les vêtements par un professeur qui s'appelle le professeur d'Outremepuy, considéré comme le pape de l'ADN en France et bien au-delà. Lui, il était très content au moment de ses découvertes. Pourquoi ? Parce qu'il avait isolé de nombreuses traces ADN étrangères à celles de la famille. Mais
sur ces ossements et sur les vêtements.
Ossements, vêtements, essentiellement les vêtements. Il s'est avéré qu'il y avait beaucoup de contamination, c'est-à-dire de la pollution.
Expliquez ce que ça veut dire, contamination. Ça veut dire des gens qui auraient manipulé ?
Exactement, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucun lien avec la disparition et la mort de l'enfant et qui, en manipulant les ossements et les vêtements, ont laissé leurs ADN. Regardons cette table, là, on est ensemble, il y a mon ADN dessus. Voilà, pour autant, si on devait rechercher quelque chose, on trouverait le mien, le vôtre, et on ne serait peut-être pas impliqué sur ce qui est arrivé sur cette table. Mais là, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on est sur une affaire criminelle. Et que la contamination, forcément, c'est difficile à accepter pour les parties civiles, difficile à accepter également pour le professeur d'Outremepuy, ce qui le pousse, lui, mais également d'autres dans ce dossier, il n'y a pas que lui, à regretter peut-être l'intervention dans un premier temps de l'IRCGN, le laboratoire de la gendarmerie nationale, qui a commis ces contaminations. Voilà. Alors, est-ce que ces contaminations peuvent empêcher la manifestation de la vérité ? Polluer l'enquête ? En l'état, non. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux choses que les gens doivent comprendre. Un ADN, on peut toujours l'exploiter scientifiquement. Est-ce qu'on peut l'exploiter judiciairement? C'est là où c'est difficile. On peut très bien trouver un ADN, mais s'il est mélangé à un ADN de contamination, d'un point de vue judiciaire, avec un bon avocat, ça peut malheureusement échouer et faire capoter une enquête.
Est-ce que la vérité sera possible un jour, selon vous? Un enquêteur vous confiait, Valentin, et je pense que c'est une des clés de votre livre, on trouvera sans doute la vérité, mais pas forcément l'auteur. Est-ce que vous partagez cet avis?
Alors, moi, je me range derrière celles et ceux qui savent. Je suis très modeste dans ce dossier. Oui. Moi, je fais confiance aux personnes qui m'expliquent. Quand j'entends le général Berthelin, l'ancien patron de la section de recherche de Marseille, qui était en première ligne pendant des mois avant d'aller dans l'Oise, qui me dit « Valentin, cette affaire est la plus mystérieuse de ma carrière. » Il a une carrière qui est incroyable. Quand le procureur Blachon me dit « il y a forcément un avant et un après, c'est l'affaire d'une carrière. » Même mot d'Isabelle Colombani, l'avocate de Philippe Vedovini, qui en a vu en matière pénale. Mais je me dis que c'est vraiment très compliqué, que c'est difficile et que la vérité, on ne l'aura peut-être jamais. Il faut imaginer quand même et dire aux personnes qui nous écoutent que la section de recherche de Marseille, c'est la plus grande de France, elle est plus grande en termes de moyens que celle de Versailles. Il y a encore aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle, 6 gendarmes qui travaillent jour et nuit sur ce dossier. Ils ont été jusqu'à 15. Donc les moyens...
Ils ne désarment pas.
Ils ne désarment pas, c'est des millions d'euros qui ont été dépensés à juste titre pour faire manifester et éclore la vérité. Si on en est toujours là, 2 ans et demi après, c'est que, et c'est ça tout l'objet de mon livre, c'est que oui, on peut avoir des certitudes, on peut avoir des intimes convictions, et c'est tout à fait sain et c'est tout à fait logique. Pour autant, le doute est permis, je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul pour se dire, ah oui, sur le papier c'est simple, mais dans la réalité, c'est vraiment très compliqué.
Et alors vous, votre intime conviction ?
Je la donnerai jamais. Mm-hmm. Je la donnerai jamais parce que ben, je ne serais plus crédible d'un point de vue journalistique.
Mais vous en avez une.
Ah, mais j'en ai une comme tout le monde. Pour autant, je trouve toujours, et ça c'est factuel, je trouve toujours, quand j'ai une idée, un élément, un grain de sable, qui va me faire dire « Ah ben non, c'est pas possible. »
Qui remet le doute.
Mais oui.
Mais c'est l'exercice du doute qui est sain.
Eh ben, exactement. Et le général Berthelin m'avait dit une fois « Un bon enquêteur, c'est un enquêteur qui doute. » Je pense que c'est aussi valable pour un journaliste.
Est-ce que vous serez encore longtemps obsédé, du point de vue positif, habité par cette affaire ?
Je pense que l'affaire Émile, je la croyais comme l'affaire d'un samedi. C'est devenu l'affaire d'une vie. J'ai 35 ans, je sais pas de quoi demain sera fait. Mais on ne peut pas se détacher de ça. J'ai tissé trop de liens avec les villageois, avec des magistrats, avec des enquêteurs, avec des parties civiles, avec des avocats. Trop de liens pour arrêter définitivement.
Et puis, vous avez laissé un petit peu des miettes de vous aussi dans ce livre et vous dédiez ce livre à votre fils.
Bien sûr, parce que l'impact est énorme, j'ai transposé. C'est ce qui fait la différence entre ma situation et la situation d'excellents confrères qui sont probablement meilleurs que moi et qui ont des gros réseaux, etc. C'est que moi, je ne m'intéresse pas à l'affaire Émile quand ça s'accélère. Je m'y intéresse quotidiennement depuis le 9 juillet 2023, date à laquelle je l'ai révélé. C'est aussi pour ça que j'ai une certaine légitimité à en parler. Parce que je ne la gère pas, cette affaire, je ne la couvre pas, je la vis de l'intérieur. Donc évidemment, quand on la vit... et qu'on a un enfant, que je salue, mon petit Roméo, qui a l'âge d'Émile, vous transposez, vous faites une bêtise. Et quand un matin, à 3 ans et demi, vous l'emmenez à l'école et qu'il vous dit, et qu'il vous demande, avec l'insouciance de son jeune âge, bah, « Papa, est-ce que le petit garçon sur ton téléphone, il est mort ?» Eh bien là, vous prenez une claque et vous comprenez que Roméo, avec ses mots d'enfant, a mis le doigt sur mes mots MAUX d'adulte. Donc forcément, j'ai laissé quelques miettes, mais rien à côté de ce que vivent malheureusement les parents d'Émile.
Merci beaucoup Valentin, je le rappelle, Émile, les zones grises de l'enquête, ça sort aujourd'hui, précisément chez Fayard. Lisez-le, il y a plein de fils à tirer et il y a plein de choses à découvrir et oui, le doute est permis. Merci de nous avoir suivis, merci Valentin d'être venu jusqu'à nous. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur bfmtv.com et les plateformes de streaming. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles enquêtes dans Affaires suivantes, le podcast inédit.